Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Ha, 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 ha. Bonjour !
Pour commencer cette émission, nous avons choisi de vous faire écouter la lecture de La place du mort, une nouvelle de Gérard Viry, auteur également de la trilogie De la chair, un thriller dont vous pourrez bientôt lire le deuxième volume. Cette trilogie est publiée par les éditions de la Mérule.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Ce sont les voix de Laurent, de John, de Patricia
et bien sûr d'Evelyne
qui vous accompagneront dans cette émission.
C'est-à-dire, monsieur le juge, que mon épouse et moi, on faisait chambre à part depuis un bon moment. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand j'y songe, finalement, ça m'allait bien parce que ma femme, hein ? Vous savez ce que c'est ? Toujours à bisquer pour un oui ou pour un non, et jamais contente de rien par-dessus le marché. Ah, ça, je vous jure, foutue histoire que la vie de couple, pas vrai ? Vous êtes marié, vous, monsieur le juge ? Eh bien, si jamais vous l'êtes, vous me comprendrez, c'est sûr. Parce que, hein ? Ces petits gestes du début qui vous enveloppent comme du vent d'été au matin, qu'on croit que c'est du pollen de lavande tellement c'est fort et entêtant sous la caboche, alors que c'est juste là pour vous enrhumer les sens et tout vous mettre à l'envers. Et puis, leurs minauderies, quand elles veulent vous alpaguer, tous ces airs troubles qu'elles prennent et habillent leur langue, cette grâce en barre venue des étoiles ou de je ne sais quelle planète, et qu'elles plantent comme des épices de Noël sur des talons hauts. Ces trucs qui vous effleurent comme de la soie, à vous en étourdir des replis du cœur jusqu'au bout de l'âme. Hein ? Tout ça, monsieur le juge, vous connaissez aussi. Vous en souvenez, n'est-ce pas ? Parce que c'est vrai, pour nous les hommes, après, ça ne devient plus qu'un souvenir, hein ? Un truc qui vous marque à jamais au fer rouge. De l'amour qui par excès. De l'amour. Tu parles de l'estourbissement, oui, de la saloperie éternelle, parce que c'est comme ça que ça se passe, depuis la nuit des temps.
Mouais.
Bon, faut bien se rendre à l'évidence. Tout ça, c'est fait juste pour que vous sachiez plus très bien où vous habitez. C'est là pour vous chambouler d'abord le monde, puis ensuite les parties. C'est seulement après, quand il n'y a plus besoin, que l'affaire est réglée, pliée. Parce que le gars, elle l'a ferré avec le plomb qui convient. Et pfuit, ça disparaît de rue, et fier. Comme du sable tiède entre les doigts, sans que vous en rendiez compte. Au réveil, reste alors la basse mécanique féminine. Le naturel. Le truc revenu au galop juste pour vous faire chier. Leur coquin de sale caractère. Et ça, croyez-moi, monsieur le juge, ça empêche sérieusement de rentrer chez soi le soir. Parce qu'en clair, hein, une fois que la queue levée et la garde baissée, ben, il ne nous reste que nos yeux pour pleurer. Et le bistrot aussi, un peu.
Voyons, Jean-Philippe, reprenez-vous. Je ne peux vous laisser aller à ce genre de mauvaise exégèse. C'est inconvenant et déplacé ici. Non, vous ne pouvez pas généraliser aussi facilement sur la vie de couple. Toutes les histoires sont différentes. Venez-en plutôt au fait.
Faudra m'excuser, hein. Si je sais pas bien où c'est exégèse. À l'école, je n'ai pas été bon en géographie. Mais en ce qui concerne les faits, là, j'y arrive, monsieur le juge. J'y arrive. Mais bon, vous ne m'empêcherez pas de dire quand même que pour résumer le fond de l'histoire, le pétillant du début a vite fait par tourner vinaigre. Si bien que même sans rire à Pascal, tellement qu'elle me cherchait des poux dans la tonsure, ben j'ai rapidement fini par le trouver lourd, gras et pour tout vous dire, vulgaire. Je vous épargne l'étalage des mièvries érotiques du début, qui se sont transformées subito en ordre aboyé, façon Wehrmacht. Rien de tel pour vous la couper. Et quand elle voulait bien se laisser approcher, c'est-à-dire à la cinglinglin des années bisextiles, fallait pas que je me loupe. Sinon, j'étais marron pour une possible prochaine fois. Vous imaginez, monsieur le juge, la pression qui s'activait façon cocotte minute au niveau de mon garde à vous? C'était pas possible comme ça. Et après, ben, j'y arrivais plus à être en forme pile poil quand il fallait. Si bien que là aussi, par trouille, de prendre l'engueulade au milieu du fiasco, j'ai soudain plus envie, monsieur le juge. Oui, plus envie du tout. C'est venu comme ça. Oh, ça m'a fait chialer plus d'une fois. Car imaginez-moi au milieu du tableau. Soudain, je n'étais vraiment plus un homme. J'étais devenu autre chose. Un castrat sans voix. Un eunuque avec des castagnettes, mais sans harem. Dire les dégâts à l'horizon de l'élastique de mon caleçon.
Oh, Jean-Philippe!
Pour sûr! C'est vrai qu'il y a de quoi vous plomber le naturel du penchant pour la bagatelle. La preuve, chambre à part, soupe au silence râpé, question transport amoureux, hein. On va autrement plus vite à pied, hein. Enfin. En tout cas pour moi, et si je dois tout déballer, là, aussi sec, monsieur le juge, ben je dis que c'est bien comme ça que ça s'est passé, et pas autrement.
Certes, certes, mais Jean-Philippe, avez-vous cherché à en discuter avec Pascal, à établir un dialogue constructif avec elle, afin de trouver une issue à vos problèmes? Ainsi, n'y avait-il pas une autre solution que celle que vous avez choisie?
Bof, c'est le juge, j'en sais rien.
Oh, Jean-Philippe, ne m'appelez pas comme cela, je vous en prie.
Oui, mais vous, pourquoi vous me posez alors toutes ces questions d'abord? On n'a pas gardé les moutons ensemble, que je sache. Et puis, je comprends pas bien. D'abord, vous me demandez de raconter, et en même temps, on dirait qu'il faudrait que je ne vous raconte pas. Faudrait savoir tout de même.
Oh, un peu de respect, que diable! Répondez, avez-vous essayé de sauvegarder d'une façon ou d'une autre votre couple?
Ah ben ça, plein de fois. J'ai même essayé le dépaysement, histoire de transcender le quotidien. Comme elle disait, les vacances au soleil, sous les oliviers de la Méditerranée, c'est bon pour l'amour, il paraît. Enfin, c'est ce qu'on croit, hein?
Ouais, sans doute, sans doute. Continuez. Y a-t-il eu une amélioration dans vos relations?
Vous rigolez? Rien. Nada. Toujours à m'humilier, jamais à m'aimer pour ce que j'étais, son mari. Tenez, hier encore, avant l'accident, je me suis dit, allez, un dernier effort, un dernier espoir. Tu vas pas tout enterrer comme ça.
Oh, Jean-Philippe.
Ben oui. Mettez-vous à ma place. J'en pouvais plus, moi. Alors c'est vrai, hier, je lui ai donné une dernière chance pour qu'on revienne bien ensemble. Mais elle, elle ne l'a pas senti comme ça devait. Au contraire, elle m'a achevé. Imaginez le truc. Vers 5 heures, je lui dis, histoire de changer d'air, « Tiens, et si on allait en ville faire les boutiques ?» Là, vous savez ce qu'elle me répond ?
Oui, après le repassage.
Non, mais j'y croyais pas, monsieur le juge. Le nouveau du romantisme, du « après je passais donc après le repassage ». Voilà la place qu'elle m'a attribuée, entre le repassage et la vaisselle, comme si j'étais une tâche domestique parmi d'autres. Bon, sur le coup, j'ai quand même ravalé ma fierté et je me suis fait beau, avec parfum et cravate, histoire de faire encore un effort. Enfin, elle, Elle est prête. Et nous voilà dans la voiture. Une douce musique pour réchauffer l'habitacle. Et je pose ma main sur sa cuisse. Elle était froide. On n'a pas fait quelques kilomètres qu'elle me balance.
T'as encore grossi depuis cet été. Tu comptes t'en remettre un jour au sport ?
Je ne dis rien. Mais je retire ma paluche congelée. Là, je sais que sa chance a viré, surtout quand elle ajoute.
Vraiment, tu devrais arrêter le sucre.
Dans ma tête, ça s'y met sec. Ça rumine en boucle, en circuit fermé, en soupape sous pression. Puis quand ça vient devant, que je sens que ça ne tient plus, que ça éclate, que ça explose pour de bon, alors tout naturellement je vise l'arbre. Celui qui va bien avec sa gueule et celui du côté de la place du mort, j'avoue, j'ai visé de mon mieux pour qu'il vienne lui défoncer son crâne de salope et de sorcière à tout jamais.
Oh Jean-Philippe.
Bah, c'est vrai, je raconte comment ça s'est passé exactement comme j'ai vécu.
Mais sauf que là...
Sauf que là quoi, monsieur le juge ?
Mais sauf que la colère vous a aveuglé et que vous avez justement mal visé.
Comment ça, monsieur le juge ?
Bah, vous ne vous rappelez de rien, vraiment ?
Non. Non. Je vous jure, monsieur le juge, je ne vois pas de quoi vous voulez parler.
Allons, faites un effort. Souvenez-vous, le dernier coup de volant donné, c'est Pascal qui l'a donné.
Pascal ?
Oui, en effet, c'est elle.
Hein ? Alors là, monsieur le juge, alors là...
Jean-Philippe, une dernière fois, ne m'appelez pas ainsi.
Alors comment dois-je vous appeler, monsieur le juge ?
Mais Saint-Pierre, tout simplement.
C'était la musique Thème du cimetière, extraite du CD Musique pour contes étranges de Pierre Zimmer que vous venez d'entendre. Si vous nous écoutez régulièrement, vous aurez certainement remarqué que nous empruntons assez souvent des musiques à Pierre Zimmer pour créer des ambiances autour de nos nouvelles.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
À propos d'ambiance, nous allons en changer maintenant pour entrer dans la nouvelle « 10 euros moins 1 », écrite par Élise Jadelot. À propos d'Élise, en 2012, nous avions publié dans la collection de la Maison d'en face une pièce de théâtre. Au commencement était le verbe, dont elle était l'autrice.
€-1. Elle serre son ticket contre elle. 9 € pour terminer le mois. Nous sommes le 3, mais nous pourrions tout aussi bien être le 28. Les jours sont en miroir lorsqu'il n'y a plus d'argent. Elle s'est soumise à la promesse de 5 000 € pour 1 € le ticket à gratter. Et il lui est resté que 9 euros. Lorsqu'elle a salué le buraliste d'un « Il est gagnant celui-là, j'espère, hein ?» Passer d'un seul billet à plusieurs pièces lui donne l'impression d'avoir gagné au change. Alors elle fait le chemin avec sa petite monnaie. Non, elle n'achètera pas de baguette de pain à la boulangerie. Elle ignore le boucher. Et hors de question de regarder la boutique de vêtements. Non, elle marche. La ville s'étire sous ses pas et change de couleur. Ça fait bien longtemps qu'elle a désappris à regarder sa montre. Rien n'existe en dehors de l'estomac. Alors le décompte de sa journée, elle le fait en égrenant ses pièces.
7,30 €.
Elle a acheté du pain de mie et n'a toujours pas gratté son ticket qu'elle préserve. Le pain de mie est une bonne affaire. Il se conserve mieux que la baguette. Et on peut en prendre 2 tranches par jour sans que le paquet ne diminue trop. Ah, cette sorte d'économie à l'extrême pourrait presque passer pour de la volupté. Si elle n'était pas aussi mortifère. Ici, on économise. Non pour savourer, mais pour gagner du temps sur la faim.
5 €.
De nouveau, un seul billet à la place des pièces scintillantes. Du blanc de dinde reconstitué pour aller avec le pain de mie. 4 tranches. Voilà qui fera l'affaire pour 2 repas. On ne peut pas bien manger lorsqu'on n'a rien pour payer. À la caisse, son oreille attrape une conversation au vol. Elle entend
« 5 fruits et légumes par jour ».
Le manque d'argent la pénètre comme l'humidité en hiver. C'est une honte qui finit par la représenter. Au sortir du magasin, un rayon de soleil fait une tache blanche près de son pied, comme une invitation.
2 €.
Elle est assise à une terrasse de café et contemple le fleuve et les bateaux. Elle laisse traîner son regard sur l'eau, le ciel, la transparence de son verre. Et surtout sur sa petite tasse blanche. Alors elle ouvre un sachet de sucre et en verse tout le contenu à l'intérieur. Les grains glissent comme de l'eau dans une clepsydre. Elle pense plus à l'argent, elle prend sa petite cuillère. Elle la tourne dans son café. Le tintement sur la porcelaine lui rappelle le bruit d'une clé.
Sur la table voisine, il y a un livre, elle le sait. C'est précisément la raison pour laquelle elle s'est arrêtée à cette terrasse. Elle a vu ce livre seul, abandonné sur cette table. Elle aurait pu se mettre à la table du livre. Elle a choisi de se mettre juste à côté, comme pour laisser sa chaise à un lecteur invisible.
Elle boit doucement son verre d'eau. Et la fraîcheur du verre dans sa main l'apaise. L'eau du fleuve qu'elle observe et celle qu'elle est en train de boire lui donne la sensation de flotter, d'être une brise marine. Elle attend patiemment le moment où elle décidera d'ouvrir le livre. Elle sait que le livre est là. Elle l'observe du coin de l'œil. Sa reliure en cuir l'intrigue. Cela en rend l'intérieur insondable. L'ouvrage est assez grand, peu épais. La beauté de ce cuir, comme à peine travaillé, lui donne envie de le toucher. Elle voudrait caresser de ses mains toutes ses fines aspérités. Elle voudrait sentir le parfum de ses pages. Encore une gorgée de café et elle le prendra.
Le serveur arrive et nettoie la table du livre. Il le prend. Elle a peur qu'il ne l'emporte. Mais il repose le livre et continue à nettoyer les autres tables. C'est un soulagement. Les mains tremblantes, elle repose sa tasse dans sa soucoupe. Elle sait que le moment est venu. Une crampe délicieuse à l'estomac, une petite pression à la poitrine, et elle commence le geste. Elle attrape le livre. Elle apporte à sa table. Ne pas l'ouvrir tout de suite. L'imaginer. Toucher sa couverture. Le respirer profondément. Enfin, elle l'ouvre. À la première page se trouve un mot. Écrit à la main, soigneusement, bien centré. Comme une dédicace étrange. Plein. Elle respire profondément et décide de parcourir le livre. Toutes les pages sont soigneusement numérotées. En dehors de cela, rien. L'œuvre est vide. Toutes ses feuilles nues sont lourdes de silence. Une blanche montagne qu'on ne gravira jamais.
Elle a soudain l'impression d'étouffer sous tout ce néant. La peur du manque la rattrape. Elle se sent comme aspirée par le vide et le monde lui redevient douloureusement gris. Elle se souvient. La marche vaine, la sinistre économie du ventre, le ticket à gratter, fébrilement elle le sort de sa poche. Que ferait-elle avec 5 000 euros? Sort-elle dans ce café avec son pauvre verre d'eau et ce même livre blanc devant elle? Par réflexe, elle sort ses 2 derniers euros comme seul élément tangible de sa réalité. La pièce serrée entre le pouce et l'index, elle se met à gratter la fine pellicule dorée du ticket. Ses ongles se couvrent d'un or terne et le chiffre 10 apparaît. Rien de plus. 10 euros tout rond.
€10 + 2.
Elle n'est même pas certaine d'être soulagée. D'un geste machinal, elle se lève et s'empare du livre vierge. Quelque chose en tombe. C'est un stylo bille noir. Le même qui a dû servir à la dédicace et à la numérotation des pages. Alors, comme si le stylo bille lui avait fait flancher les genoux, elle se rassoit. Elle ouvre le livre avec moins d'espoir et plus d'attention. Elle le feuillette et imagine sous sa blancheur de neige les pages qu'elle pourrait remplir. elle se met à créer un monde plein sur du vide. Elle tourne les pages blanches qui s'animent, seule, et leur trouve une beauté à explorer. Elle se passionne pour les nuances de blanc entre chaque page, pour ces chiffres qui les différencient chacune, comme pour couronner leurs différences. Elle voyage dans la tranche du livre et dans ses parfums neutres.
Au milieu, elle soupire, pleine d'un détour au cœur du néant, un trou noir immaculé, qu'elle a su lire cette fois, parce qu'elle a accepté de se faire emporter. Comme si tout son imaginaire s'était développé au travers d'une fenêtre dans la nuit. Une fenêtre qui ne donnerait accès qu'à son propre reflet. Elle se délecte de ce moment de retrouvailles avec elle-même. Elle prend un temps, puis, de nouveau, se lève, laisse 2 euros de pourboire au comptoir et part.
Et lorsque le serveur arrive pour débarrasser la table, il trouve une tasse de café pleine de sucre, un verre d'eau à demi rempli et un livre vide, mais encore chaud. Ce sont 2 morceaux, Eigengrau et Le pouvoir de l'oubli, du CD Durango de Guillaume Poncelet qui accompagnait cette nouvelle d'Élise Jadelot.
RCN, quelles sont les nouvelles ?
Une émission proposée par la revue Les Refusés.
Et pour clore cette émission, 2 micro-nouvelles de 100 mots seulement du recueil « Meurtre sans façon ». Ce sera « Médecin des morts » de l'autrice Christine Reynaud de la Jara et « L'historique est effacé » de l'auteur Julien Beneteau. Et entre les deux, nous ferons une petite respiration musicale avec « Les poupées mécaniques » de Pierre Zimmer. Médecin des morts, un métier absurde à la réflexion, hein. Et puis avec quelle odeur.
Fais ton malin, commissaire.
Ouais.
Tu poses des questions idiotes.
Ah, t'es gonflé. Sans questions idiotes, ce malabar de gardien était fait.
J'avoue, vu le crâne enfoncé, jamais j'aurais analysé l'intestin. Mais sans Bibi, erreur judiciaire. Alors, c'est quand même toi qui payes la tournée.
Oh, l'addition, elle est pour la petite dame au sourire angélique, hein. Ouais. Elle était même pas suspecte, hein. Fortiche. Ouais, 3 ans. 3 ans d'empoisonnement méticuleux, et la voilà propriétaire. Ah, magnifique, hein. Du Balzac, hein. Au fond, Au fond, on fait un métier de poète, non ?
Anastasia regarde le squelette. Elle mesure sa position, une règle posée près du corps, sert pour avoir une échelle que la photo donne une idée juste. Ce devait être une femme à première vue. Elle est repliée en chien de fusil, des fibres textiles sont encore visibles ici et là. L'entaille dans le crâne fascine la jeune femme.
Ton avis ?
Demande Alix, sa collègue. Je pense que le corps a été placé là, à l'écart du village. Son meurtrier a fait vite. On ne le retrouvera pas.
Non, pas 1800 ans après, je suis d'accord.
Approuve en riant l'archéologue.
Quelles sont les nouvelles sur RCN ?
Alors, c'est l'heure de vous dire... Au revoir à tous et toutes.